Il y en a qui donnent des ordres, ceux qui donnent la migraine. Certains donnent du fil à retordre et y a ceux qui reprennent. Il y en a qui donneraient cher et ceux qui ont tout donné. Ceux qui se donnent en spectacle et ceux qui donnent à penser. Certains se donnent trop d'importance, ils me donnent envie de rire. Certains donnent mauvaise conscience même s'ils donnent du plaisir. Toi si tu donnes de ton temps, c'est ton temps qui rigole. Donne un peu, ça fait du bien, je te donne ma parole. Je te donne ma parole, je te donne ma parole. Donnez, donnez, donnez. Que le don soit la norme. Je te donne ma parole pour le faire résonner. Je te donne ma parole, je te donne ma parole. Donnez, donnez, donnez. Que le don soit la norme. Je te donne ma parole et qu'il puisse résonner.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Bac FM. Siloé pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du festival Temps de Parole comme depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, on parle d'un spectacle qui mêle à la fois le conte, la musique et la réflexion autour d'un sujet complexe mais pour autant essentiel, l'égalité entre les filles et les garçons à travers les époques et le monde. À destination des collégiens dès la troisième et également les lycéens, le chemin des épinettes aborde avec finesse et sensibilité les stéréotypes de genre qui persistent encore aujourd'hui. Et pour en parler à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir au micro de Bac FM Françoise Barré, conteuse, comédienne, autrice, qui se produira de reprise demain matin. Bonjour Françoise et bienvenue à toi.
Bonjour Siloé.
Merci d'avoir accepté l'invitation. On va échanger un petit peu ensemble. Pour débuter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, donc je suis conteuse, comédienne, autrice, j'aime bien mélanger ces trois mots parce que le travail de conteur, c'est pas simplement lire des histoires. Des fois on arrive, qu'est-ce que vous avez à lire ? Ah ben non, je lis pas, justement je sais pas lire. C'est des histoires qui se transmettent depuis la nuit des temps, et si elles se transmettent, c'est qu'elles ont toujours quelque chose à dire de nouveau et de pertinent par rapport à l'époque dans laquelle elle est racontée, donc elle évolue, elle est adaptée. Et puis, pour que ça arrive au public, il faut aussi la jouer, l'interpréter avec sa voix, ses expressions, son corps, et donc utiliser les outils de la comédienne.
Super. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce métier de la scène, du conte ?
Alors, la scène, j'en ai toujours rêvé. J'ai eu la chance que mes parents m'ont emmené voir des spectacles assez jeunes. J'habitais à Paris et à l'époque, le jeudi après-midi, il y avait à la Comédie Française les classiques qui étaient donnés à un tarif très, très réduit. Et donc, ma maman m'emmenait de temps en temps là. Et dès que j'ai vu des gens sur la scène, j'ai dit j'ai envie d'être avec eux. Donc, ce rêve d'être comédienne, je l'ai toujours eu depuis l'enfance. Alors, quand de mon temps, je ne suis pas si vieille que ça, mais malgré tout, le spectacle jeune public n'était pas encore très développé. Il n'y avait pas de spectacle ni de cours pour enfants. Et donc, au collège, en troisième, j'ai monté ma première groupe de théâtre avec des copains-copines, une prof d'anglais qui nous a aidés à faire ça. Et puis, j'ai tanné mes parents pour faire des études de comédienne. Et j'ai fait aussi des études d'histoire de l'art.
D'accord.
Parallèlement. Et voilà, je me suis lancée donc, tout de suite après à monter ma première compagnie. On m'aurait dit à ce moment-là, tu seras un jour conteuse et tu travailleras pour le jeune public. J'aurais dit, oh, ça ne va pas la tête, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais devenir metteuse en scène. Et puis très vite, je me suis rendue compte que c'était pas ma place. Et puis, il se trouve que j'ai eu des enfants. Enfin, j'ai quand même monté des pièces que j'ai beaucoup appréciées. Mais il y avait quelque chose qui me manquait entre la mise en scène, l'écriture, le jeu, enfin, tout ça me passionnait et je ne savais pas comment ça s'articulerait, ça pouvait s'articuler. Et en fait, j'ai eu des enfants, j'ai commencé à leur raconter des histoires et je prenais un plaisir immense à faire ça. À un moment donné, on m'a commandé un spectacle sur des contes sur la mer. Je me suis plongée dans les contes et j'ai compris ce qu'était la littérature orale, donc ces histoires qui parlaient de manière fantastique, mais en même temps de choses très concrètes de l'humanité. Cette légèreté de la parole, où se mélange en effet le travail d'expression, d'écriture, de recherche. Et j'ai compris aussi que ces textes que j'avais étudiés en histoire de l'art, que ce soit la mythologie ou les contes, les récits du Moyen-Âge, Chrétien III, Marie de France, venaient de la littérature orale et que ces récits-là aussi pouvaient ressortir des livres et être racontés. Et donc, je me suis pris les pieds dans la marmite et c'est là que je, J'ai basculé, quoi. J'ai changé d'instrument. J'ai souvent, c'est comme un instrumentiste qui trouve son instrument. Là, j'ai trouvé mon instrument à travers la littérature orale et le conte.
D'accord. Et tu, à la base, tu n'es pas issue d'une famille d'artistes spécialement ?
Pas du tout. Pas du tout. Mes parents sont plutôt dans l'enseignement. Mon papa chercheur, c'est des gens, voilà, on va dire de la classe moyenne, mais qui ont toujours été très très ouverts sur la culture. Ils m'ont emmené au musée, au théâtre. On a visité les églises romanes. Enfin voilà. Ouais. Donc ils m'ont nourri de ça, mais eux-mêmes n'étaient pas du tout, pratiquaient pas du tout.
Donc, ça ne les a pas étonnés, finalement, que tu te lances
Si, ils disent toujours qu'ils sont complètement étonnés de ce qu'ils ont pondu. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui sont très émerveillés du monde autour et ils sont très émerveillés de leurs enfants. Et mon frère était architecte, il est décédé assez jeune et il était très artiste, lui. Il peignait très tôt, il a dessiné de manière assez extraordinaire, très, très jeune. Et puis, moi, ce métier, voilà. Et ils sont toujours très heureux de... émerveillé de voir ce qu'ils ont produit à travers nous.
Oh, c'est beau, c'est une belle, une belle réussite pour toi également d'ailleurs, de voir leur fierté. Alors, si on rentre dans le cœur du sujet, du spectacle, comment est née l'envie justement de traiter cette question de l'égalité filles-garçons dans un spectacle ? Parce que c'est un sujet assez, alors très important de nos jours, mais assez sérieux quand même et important. Comment est venue l'idée ?
Alors, c'est quelque chose qui traverse tout mon travail. La première compagnie que j'avais créée avec une camarade, Catherine Zambon, avec laquelle on a travaillé pendant une dizaine d'années, s'appelait le Théâtre de l'Engeance. L'Engeance étant l'Engeance des femmes, des filles. C'est-à-dire qu'on avait cette conscience, dans les années 80-90, d'avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire d'hériter de tous les combats des femmes, en particulier post-68, le droit à la contraception, à l'IVG... Et on parlera tout à l'heure des interventions que je fais auprès des élèves, mais je leur dis souvent, moi, quand je suis née, ma maman ne pouvait pas travailler, ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et seul mon père avait l'autorité parentale sur ses enfants.
Oui, c'est pas si vieux que mine de rien.
Mine de rien. Et donc, on va dire 20 ans plus tard, quand je suis devenue adolescente et jeune femme, j'avais cette grande liberté. Et quand j'ai voulu avoir un petit copain, ma maman m'a emmenée chez le gynéco. Enfin, voilà, c'est des choses qui étaient impensables pour elle, la génération d'avant. Donc, il y avait vraiment une grande, grande évolution. Donc, j'avais vraiment conscience de cette... De ces générations de femmes avant moi, qui avaient ma grand-mère qui était très brillante, ma grand-mère paternelle qui n'avait pas pu avoir le bac, qui a pu avoir une profession importante, mais en tous les cas, j'avais conscience de ces barrages qu'elles avaient vécu, donc de cette grande liberté. Puis bon, en même temps, j'ai commencé ce métier, et puis je me suis rendu compte que c'était pas si simple, que la place des filles et de celle des garçons n'était pas la même dans la société, que les garçons sortant de l'école de théâtre, ils avaient tout de suite du boulot, ils étaient tout de suite sur les grandes scènes, que moi avec Catherine, on avait besoin de ramer, enfin, que c'était
pas faire ses preuves,
de faire ses preuves plus. Beaucoup plus. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis je me suis rendu compte que l'égalité dans le couple, c'était pas si simple, que dans la balance, le travail de mon mari, même s'il adore mon travail et qu'il m'a toujours beaucoup soutenue dans ma profession, il n'y avait pas la même valeur de nos, dans le quotidien. Voilà, et donc j'ai créé dans les années 2000 un spectacle qui s'appelait Amazon, qui retraçait le mythe des Amazones. C'est un spectacle qui a beaucoup tourné. C'était cette période en fait où on prenait conscience d'une forme d'échec de cette libération des femmes, se dire que, le dit George Sand, la loi fait pas les mœurs, et que certaines personnes disaient qu'il fallait réinstituer la séparation des filles et des garçons à l'école, revenir sur la mixité. Il y avait la question du voile qui commençait à se poser, beaucoup de questions qui traversaient la société. Et donc, ce spectacle, je l'ai fait, il a beaucoup tourné. C'était vraiment une nouvelle fac du féministe aussi, que j'ai poussé la troisième, la quatrième. Enfin, en tous les cas, c'était le début. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, donc le spectacle, il a été créé, je ne sais plus si c'était en 2019 à peu près, le chemin des épinettes. de se dire mais pourquoi en fait c'est encore si difficile alors qu'on a tous envie d'accéder à cette égalité, pourquoi elle n'est pas dans la réalité, et puis avec la montée des violences, etc. Et donc, je me suis dit, il faut peut-être regarder derrière, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré un anthropologue qui s'appelle Jean-Loïc Lequellec, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux contes, un mythologue, il travaille sur les mythes, et qui m'a dit, mais Françoise, tu sais, dans toutes les sociétés du monde, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on parle de matriarcat, mais ça n'existe pas vraiment, il n'y a aucune société au monde dans laquelle les femmes dominent les hommes, et surtout par la violence. La violence contre les femmes est quelque chose de systémique. Et donc, je m'étais jamais posé la question en ces termes-là, et je me suis mis à me plonger dans le travail des anthropologues qui ont étudié les sociétés et de voir comment les sociétés ont raconté cette séparation des sexes, puisque toutes les sociétés traditionnelles sont basées sur la séparation des sexes. T'es une femme, t'as un certain destin, t'es un garçon, t'auras un certain destin. Et cette séparation des sexes est pensée comme une base de la société, et elle se raconte, puisque les humains, pour justifier leur manière de vivre, racontent des histoires. Donc c'est un spectacle qui mélange à la fois des connaissances contemporaines sur justement cette compréhension qu'on a de la construction sociale et anthropologique des sociétés, biologique aussi, puisqu'on sait des choses maintenant sur la biologie humaine et à la fois comment on fait les bébés, qu'est-ce que c'est vraiment que la sexuation biologique, et donc des questions sociologiques, et puis des contes et des récits qui viennent nous mettre ça dans une perspective plus longue.
D'accord. Et justement, quels sont les stéréotypes que tu déconstruis en priorité là, dans ce spectacle ?
Alors, il y a déjà l'idée, en fait, par exemple, je suis intervenue encore ce matin là, devant des classes, et
oui,
puis je leur pose la question.
On peut en parler maintenant.
Oui, parce que ça permet d'aborder les questions de ce qui reste, en fait, encore aujourd'hui, très marquant dans nos sociétés, dans les esprits. C'est-à-dire qu'on est des êtres profondément culturels. Hein. Le bébé n'est pas construit, et donc il va être totalement dépendant pendant quelques années. Et on est des êtres profondément culturels. Donc notre cerveau finit de se construire dans une société. Donc on va intégrer des stéréotypes dont on n'a pas forcément conscience, et c'est là où chez les jeunes, c'est pas forcément évident de faire, et même parfois aux adultes, hein, parce qu'on voit ce qui se dit aujourd'hui autour des masculinismes, de faire la différence entre nature et culture. Hein. On est des êtres à la fois profondément naturels et profondément culturels. Tout ça s'entremêle. La séparation entre les filles et les garçons, elle n'est pas du tout naturelle, elle est culturelle. Et surtout, cette conscience de la différence a amené les hommes à avoir la peur de ne pas pouvoir se reproduire, puisque seules les femmes peuvent se reproduire, et a fait que le groupe des hommes a dominé le groupe des femmes pour pouvoir de pouvoir posséder sa descendance. Ça, c'est ce que dit Françoise Héritier. Et donc, pour en revenir à la question que je pose aux jeunes, je leur dis, les filles, vous allez me noter et me dire, pour vous, qu'est-ce que c'est un garçon, un homme ? Et je demande aux garçons de me dire qu'est-ce que c'est pour eux une fille, une femme. Et ce matin, ce qui est sorti, c'est un garçon, il est plus fort. Ce que dit la société, c'est qu'un garçon est plus intelligent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est ce que Françoise Héritier a appelé la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'à la naissance, un garçon et une petite fille ne valent pas la même chose pour sa société. Donc, dans l'immense majorité des cas, on attend plus un garçon qu'une fille, et un garçon va être valorisé, il va être mis en avant, et on va dire qu'il est plus grand, qu'il est plus fort, qu'il est plus intelligent. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de déconstruire à la sein du spectacle, et la question de la construction des stéréotypes, en fait, puisque on va attendre d'un petit garçon qui soit justement plus fort, on va mieux l'ourrir, donc
ne pas pleurer
et puis comme les garçons et les garçons et les filles d'ailleurs s'auto-éduquent entre eux, donc très tôt dans les cours d'école on va remarquer les garçons qui vont mettre à l'écart un garçon qui va jouer avec les filles, on va se moquer d'une fille qui est plus qui a plus envie d'aller jouer au foot. Ça a été dit aussi, une fille, elle n'a pas le droit d'aller faire des sports comme ça. Et ce que j'explique aussi aux jeunes, c'est que je leur pose souvent la question vers la fin des interventions, en fait, la question des violences sexistes et sexuelles et du continuum en fait de violence. Quand ils parlent de violence, ils pensent aux violences conjugales parce qu'on en parle. Et puis petit à petit, y a les mains aux fesses, les sifflements, mm-hmm. et puis des simples paroles. Et je leur dis, mais moi, jeune femme qui trouve que les hommes, mes compagnons de classe avaient plus de travail que moi plus facilement, est-ce que c'est une violence ou pas ? Si, c'est déjà une violence. Donc on est déjà dans un système où les filles qui vont vivre dès la petite enfance ce type de violence vont être obligées de se battre plus pour avoir la place, alors que les garçons, eux, leur place est faite. Et à la fin de ces interventions, souvent je leur demande, mais par exemple les filles, après avoir expliqué ce que c'est que des violences sexistes et sexuelles, quelles sont celles qui ont vécu des violences sexistes ? Et toutes les filles lèvent les mains. Et après, je demande aux garçons, quels sont ceux qui ont vécu des violences sexistes ? Et aucun ne lève la main. Donc déjà là, cette prise de conscience-là, de voir ça, enfin, j'espère que ça fait bouger un petit peu les lignes dans la tête des garçons. Parce que, et des filles d'abord, se dire que, j'ai dit souvent aux filles, il faut dire non, il faut en parler. Et puis les garçons, de quoi vous avez envie ? Est-ce que vous avez envie d'une société basée sur la violence et l'inégalité ? Donc, généralement, ils disent non. Donc, ça veut dire que quand, entre garçons, déjà, vous ne laissez pas faire si le groupe a envie de faire une violence, siffler une fille ou la moquer, aussi, etc. Ouais. Ou dites à un de vos copains, osez dire à votre copain, non, là, tu as franchi une limite, il ne faut pas faire ça. C'est déjà une violence. C'est une forme de harcèlement, en fait, que vivent toutes les filles, qui font qu'elles pensent qu'elles n'ont pas leur place. Et tout ça, c'est aussi un millefeuille qui fait que depuis l'enfance, on se remet en retrait. Voilà. Un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière, complètement anodin, mais on a eu beaucoup de mal avec un de nos fils qui a racheté une voiture. Et le garage avait dit, on fait la carte grise. Et puis... comme mon fils travaille, c'était compliqué pour lui de rappeler le garage, donc j'ai rappelé 4-5 fois le garage. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari, écoute, tu téléphones parce que là, j'en peux plus. Et le lendemain, c'était réglé. Voilà. Donc, c'est vraiment les inégalités et les violences qu'on vit tous les jours. Voilà, et où on cède. J'aurais pu aller lui casser la gueule et l'engueuler, lui dire t'es un sexiste, etc. Mais j'ai dit, on cède et parfois on jette l'éponge sur mille et une petites choses dans le quotidien.
Ouais, c'est navrant parce que c'est tous les jours, on s'en rend compte, vraiment.
Ouais.
Et comme tu dis, oui, c'est pas forcément une violence physique, c'est aussi dans les paroles, bien plus souvent d'ailleurs. Et c'est aussi important, je trouve, que ton spectacle soit pour les adolescents, parce que c'est les adultes de demain, donc c'est à eux aussi de montrer qu'ils en ont marre et que voilà, il faut avancer et changer un petit peu les codes qu'on nous inculque depuis tout petit aussi.
Oui, et puis quand on les interroge, on se rend compte que les choses se mélangent. La question du sexe et du genre, par exemple, de la construction sociale de l'identité, des identités sexuelles, quoi. Et que ça, c'est quelque chose qui nous a imposé l'extérieur et qu'on peut avoir le choix ou pas de dire oui ou non. Il y a des choses qu'on peut garder. Bien sûr que on parle du care, la manière dont les femmes ont pu inventer une culture du soin. En étant enfermées dans les maisons, elles ont fait des broderies extraordinaires, elles ont inventé la cuisine, elles ont inventé des maisons où c'était agréable à vivre. On ne va pas jeter tout ça. Simplement, ce n'est pas reconnu comme un fondement culturel de valeur. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas cet espace de soins qui avait été inventé et de communication et d'écoute, voilà. On dit souvent les femmes ont le pouvoir sur l'oreiller. Mais pourquoi ? Elles ont appris à là où elles pouvaient faire leur place et avancer, quoi. Donc, elles ne sont pas moins intelligentes. Elles ont inventé des tas de choses dans l'espace qui leur était donné. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est pas, on va pas le, et il faut que les hommes investissent aussi cet espace qui est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, j'écoutais la semaine dernière une émission où il disait que quand un homme s'occupait des enfants, ils développaient certains... Alors, ce n'est pas des hormones, comme on appelle ça, là, les sérotonines, les machins, qui provoquent dans le cerveau, là, qui étaient équivalents à ceux des femmes, qui allaient justement vers l'empathie, la douceur, etc. Donc, physiologiquement, ça nous transforme de nous occuper des autres, et en particulier des bébés. Et c'est super.
Parce que c'est eux, la priorité est plus soi, ouais.
Oui. Mmh. Voilà.
D'accord. Très intéressant. Et justement, tes rencontres en classe, t'en as fait une hier, hein, c'est ça ?
Oui.
Et une aujourd'hui. Mmh. Les réactions, comment ils réagissent ?
Ils sont très, très à l'écoute. Ouais. Et ça les intéresse beaucoup parce que tout est confondu un peu dans leur tête. Hein. Je parlais de la question de la nature et de la culture. Et quand, dans les réponses qu'ils me donnent, je vois très bien que, en fait, ça se mélange. Ils ont du mal à comprendre, en fait, et donc de pouvoir dire ben là c'est de la biologie, là c'est de la sociologie, là c'est de l'anthropologie, c'est ce dont on hérite des sociétés patriarcales. Tout à l'heure il y avait une des filles qui me disait moi j'ai le nom de mon père, ça veut dire que ma mère disparaît. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Et ça permet de dire, ben oui, ça, c'est du patrilinéaire. Et en effet, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que moi, à la naissance, seul mon père avait l'autorité sur moi, c'est-à-dire que l'enfant appartenait au père. Voilà, donc, et de dire qu'il y a des sociétés où c'est pas pareil. L'enfant appartient à la famille de la mère, donc ça, c'est matrilinéaire. Bon, ça, c'est des notions un peu plus compliquées. En fait, pour les troisièmes, j'avais, c'était des sexpas ce matin, donc c'était un peu plus difficile de rentrer dans ces détails. Mais par contre, pour les lycéens, ils comprennent tout à fait, et ça leur permet aussi d'aborder des questions qui sont vraiment intéressantes, hein, de la diversité des sociétés. On n'est pas tous... Les sociétés ont inventé des tas de fonctionnements différents. Et dans le spectacle, on aborde aussi un certain nombre de sociétés dans lesquelles l'intersexe a été pensé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, et puis il y a les deux âmes. Il y a des sociétés amérindiennes en particulier qui font qu'il y a des êtres qui ont... En fait, parce que chaque humain naît avec deux noms et deux âmes, enfin naît avec deux âmes, c'est-à-dire qu'il est la réincarnation d'un ancêtre. Et parfois, l'ancêtre n'a pas le même sexe que le sexe biologique que l'enfant qui naît. Donc, on dit qu'ils ont deux âmes et deux noms, et donc ils vont avoir une fonction particulière, ces enfants, dans la société des intersexes qui sont pensés. Parce qu'on sait aujourd'hui, en fait, qu'en effet, il y a un certain nombre de personnes qui naissent biologiquement intersexes. Hein.
Oui. Oui, question importante aussi de nos jours, également.
Ouais.
Alors, ce spectacle, par contre, tu ne le joues pas seul. Et là, bon, on est toutes les deux ensemble, mais il y a aussi Isabelle Bazin qui est avec toi normalement. Vous êtes un duo de scène. Et tu me disais tout à l'heure que ça fait plus de 20 ans déjà que vous travaillez ensemble, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui,
comment
oui.
vous vous êtes rencontrés ? Comment ça s'est passé ?
Il y a une vingtaine d'années, on m'avait demandé un spectacle autour d'un quartier très populaire de Saint-Étienne, quartier minier qui est au cœur de la ville, de faire une espèce de balade comptée. Lors d'une fête de la ville. Et Saint-Étienne, c'est une ville de mineurs, d'ouvriers, avec beaucoup de migration. Et ça a été une ville aussi de lutte, où il y a eu beaucoup d'avancées sociales grâce à des grèves historiques. Donc, et tout ce monde ouvrier et de militance, il y a énormément de chansons. Et donc, je voulais quelqu'un qui puisse à la fois chanter et jouer de l'accordéon. Voilà, et donc en cherchant, j'ai rencontré Isabelle Bazin, qui est venue sur ce spectacle, et depuis on ne s'est plus quitté dans les spectacles, parce qu'on s'est beaucoup bien entendu, et voilà. Donc il y a une belle complicité qui est née entre nous à travers ce spectacle, et après j'ai invité sur d'autres créations. Et donc ça nous a paru évident quand on a fait créer ce spectacle de travailler ensemble. Donc, moi, quand je travaille avec des musiciennes, principalement, parfois des musiciens, je souhaite pas que ce soit quelqu'un qui soit à côté et qui joue de la musique. C'est-à-dire, je pense que la musique
raconte... C'est pas une musique d'ambiance.
C'est pas une musique d'ambiance, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est là en tant que personne et qui raconte des choses avec la musique, avec les chants. Et donc, bon, en plus, avec Isabelle, elle a fait tout un parcours de comédienne aussi et de clown. Et donc, on travaille vraiment en duo. Donc, l'idée du spectacle, c'est deux copines, une musicienne, une conteuse, qui rentre en scène et qui commence à raconter. Oh, bah, tu sais, moi, j'ai lu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, et puis ça. Oh, regarde, ça, c'est super intéressant. Et donc, dans le cadre d'une discussion, on va aborder ces questions dont on vient de parler là dans notre entretien. Et puis, comme moi je suis conteuse, ben, du coup, à un moment donné, ça va basculer dans un certain nombre d'histoires, de contes, de récits, qui sont en relation avec le propos.
Mmh. Et alors, ce spectacle, vous le jouez essentiellement pour le public adolescent?
Pas forcément, non. En fait, on ne l'avait pas du tout conçu au départ comme un spectacle pour le public plus jeune. On l'a pensé vraiment pour un spectacle adulte. D'ailleurs, on a une version plus complète, hein, qui dure 1h30, parce que pour les jeunes, c'était trop long. Et puis, il y a des passages qui n'étaient pas... Enfin, voilà, qui on ne peut pas faire un spectacle 1h30. Voilà, assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que c'était en effet un propos qui pouvait tout à fait intéresser des collégiens et des lycéens, surtout des lycéens, troisième, c'est... Voilà. Et donc, on a reformaté un petit peu le spectacle, un tout petit peu plus serré, pour les adolescents, les lycéens et les troisièmes. Et c'est vrai que j'aime bien, en amont, quand même, faire un petit temps d'échange qui leur permet à la fois... Ben d'aborder quand même ces, parce qu'on en parlait, hein, que ces notions qui sont assez complexes et que ça leur arrive pas comme ça, comme une douche tout de suite sur scène, qui rentrent contre l'artiste, parce que les jeunes sont pas toujours habitués non plus à ce qu'est le spectacle vivant, leur parler de la musique, parce que c'est vrai que on se rend compte souvent que des jeunes n'ont pas l'habitude d'entendre des chants a cappella, c'est-à-dire des chants chantés comme ça sur scène à voix directe, même si Isabelle elle s'accompagne là dans le spectacle d'un ukulélé, mais elle chante. Voilà, leur parler aussi de la forme du spectacle et en amont.
Comme ça, ils ont toutes les clés pour demain matin mieux
rentrer dans le spectacle.
Exactement. Et, ouais. Et après, ça fera le petit bonhomme de chemin dans leur tête.
Oui, on espère.
J'espère que ça changera un petit peu les mentalités, même si c'est un... C'est en train de quand même d'évoluer à ce niveau-là, je trouve.
Ouais, oui.
Et aussi via les réseaux sociaux, on y voit les masculinistes, etc. Bon. Ils sont un peu plus au fait, mais effectivement, comme tu dis, ce mélange, ils ont un trop-plein, je pense, aussi d'informations. Donc, c'est bien aussi de leur réexpliquer d'où ça vient et pour qu'ils aient les clés, ouais, effectivement, pour apprivoiser tout ça et conscientiser effectivement tout ce qui leur arrive au quotidien et mieux, qu'on apprenne à mieux vivre ensemble.
Voilà. Bien sûr, parce que le but, c'est de vivre dans une société plus égalitaire.
Exactement.
Et voilà. Sans violence.
Sans mettre sur un piédestal les femmes plus que les hommes non plus.
Non plus,
c'est
voilà.
Pas cette question-là non plus. Ok. Et bah super. C'était très agréable de discuter avec toi. Je te remercie pour cet échange.
Merci à toi.
Je rappelle que vous serez toutes les deux avec Isabelle, hein, qui était quand même avec nous, mine de rien.
Ouais.
Vous serez sur scène, la scène du festival demain à la salle polyvalente, demain matin, donc pour deux représentations auprès du public scolaire. Donc je rappelle, c'est le spectacle Le Chemin des Épinettes. Et voilà, pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui vont venir vous voir, ou même aux adultes d'ailleurs qui vont les accompagner?
Je terminerai peut-être à une phrase du spectacle que je reprends à Geneviève Fraisse, qui est une philosophe, qui est la première à penser le féminisme en termes philosophiques, et qui dit on parle de guerre des sexes, mais il n'y a pas de guerre des sexes, il y a simplement la volonté de faire évoluer vers plus d'échanges et d'égalité entre les sexes.
Oui, tout à fait. Je te remercie, c'était encore une fois très agréable. Et je vous rappelle que le festival continue jusqu'à samedi soir. Il reste encore des places pour les spectacles en soirée et même pour l'apéro-spectacle de samedi midi. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la ville de Fourchambault et sur le Facebook également de la ville. Et tu as peut-être des réseaux sociaux, un site internet où les gens peuvent aller voir ce que tu fais et le travail d'Isabelle aussi.
Oui, donc dire d'étoile, hein, dire comme parler comme une étoile, Françoise Barret, donc Isabelle Bazin qui est aussi en tant que clown Gustina. Et puis un grand merci à toute l'équipe du festival et à l'immense équipe de bénévoles absolument extraordinaire à la mairie de soutenir un travail intelligent et qui permet, j'espère, de donner un petit peu plus d'intelligence et de fluidité dans notre société.
On l'espère, en tout cas c'est fait avec cœur ce festival, c'est un festival familial. Finalement depuis 15 ans maintenant et on en est très fiers de ce festival, donc merci à toi d'avoir été là depuis le début de la semaine parmi nous et pour tous ces compliments.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à bientôt sur les ondes de Bac FM pour une nouvelle émission.
Je te donne ma parole, te donne ma parole et donne, que le don soit la norme.